France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Les dernières semaines sont sans appel. Elles ont illustré ce que les scientifiques rappellent depuis des années. Les conséquences du réchauffement climatique sont toujours plus fortes, toujours plus nombreuses, toujours plus dévastatrices. Mais alors, face à la transition écologique nécessaire, toutes les disciplines de recherche se sont-elles mises en ordre de bataille? Prenez l'économie. Sur plus de 18 000 articles parus entre 1975 et 2023 dans les plus prestigieuses revues du monde, seuls 25 donc sur 18 000 aborde la question du changement climatique. D'où cette question. Les économistes sont-ils fâchés avec l'environnement? Justement, pour en débattre, deux économistes ce soir. Lionel Rago, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Nanterre, conseiller scientifique au CEPI. Le CEPI, je le rappelle, c'est le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Avec nous et à distance, Timothée Paric, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en économie écologique à l'Université de Lausanne, l'auteur du livre intitulé « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance », un livre qui a paru en 2022 aux éditions du Seuil. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et une citation pour commencer, une citation issue d'un article du Monde signé du journaliste Pascal Richer, je le cite. Les économistes ont longtemps ressemblé à ces personnages pantins du film Don't Look Up d'Adam McKay, qui malgré l'évidence refusent de voir qu'une météorite fonce tout droit vers la Terre. Les climatologues et biologistes ont beau avoir alerté la planète pendant des décennies qu'une catastrophe est en cours et avoir répété qu'elle est forcément dévastatrice pour l'activité humaine, la science économique a continué à caresser ses modèles de croissance comme si de rien n'était. Fin de citation. Lionel Rago, je crois que cet article vous a passablement agacé, c'est votre expression. Expliquez-nous pourquoi.
Effectivement, oui, vous avez, c'est le bon terme, agacé. Tout simplement parce que ça fait 25 ans que je travaille sur ces questions d'économie de l'environnement et je suis pas un précurseur. D'autres avaient déjà commencé bien avant moi. Donc ça fait plus de 30 ou 35 ans qu'il y a énormément de travaux de recherche menés par les économistes sur les problématiques environnementales et de transition énergétique. Et donc de lire dans un article que les économistes ont fait une impasse totale sur cette question et découvrent la question aujourd'hui, je peux vous dire que ça m'a fait bondir. Surtout venant de la part d'un journaliste, venant de la part des politiques, là, on en reparlera peut-être plus tard, je suis moins surpris. Parce que pour nous, justement, défendre les questions liées à l'environnement dans l'économie, c'est un peu comme le rocher de Sisyphe. On a l'impression, on gravit, on a l'impression qu'on a réussi à convaincre des politiques et pouf, ça redescend systématiquement.
Bon, c'est quand même un article long, fouillé, oui, documenté, avec beaucoup d'interviews. Timothée Paric, votre point de vue, est-ce que justement les économistes ont trop longtemps fait l'économie des questions environnementales?
Oui, hein, je pense que c'est un... C'est factuel, hein. Je vais rappeler quelques chiffres. Hein. Vous avez mentionné l'étude d'Eltyn Elchor de 2025. Donc sur les 18 000 articles, ça c'était dans les 5 revues les plus prestigieuses, 11 articles. Si on regarde la revue la plus prestigieuse, donc The Quarterly Journal of Economics, il y en a 0 depuis sa création en 1800. Si on étend et qu'on regarde par exemple les 50 revues les mieux classées par le Financial Times, donc là 47 000 articles d'économie, il y en a seulement 11 sur la biodiversité, donc un sujet encore moins traité que le climat. On a mentionné hein, William Nordhaus, on en reparlera, donc la seule personne des 96 lauréats qui a été récompensée pour ses travaux sur l'environnement, et on va voir que c'est pas les meilleurs. Et si on regarde nous-mêmes en France, ici, le prix du jeune meilleur économiste, hein, qui n'a récompensé que quelques personnes sur ses travaux sur l'environnement, et on peut prendre le lauréat de cette année, Antonin Bergeau, et on le félicite, hein, qui a quand même écrit un livre qui s'appelle « Le bel avenir de la croissance » en 2018. Donc, je pense qu'il faut reconnaître quand même que de toutes les disciplines universitaires, les économistes qui auraient dû, dès le départ, en fait, s'intéresser à l'environnement, parce que, et c'est l'argument que je développe aujourd'hui, quand même, l'énergie et les matériaux sont un facteur clé de l'organisation économique, et ben, sont un petit peu en retard sur ces sujets.
Lionel Rago, les chiffres là sont sans appel. Je vais redonner un chiffre qu'il y a aussi dans cet article. C'est Éloi Laurent qui parle cette fois-ci. Il a répertorié les articles des économistes du monde entier. Il a constaté que les spécialistes de l'environnement ne représentaient que 4% des chercheurs.
C'est pas impossible, tout à fait. Mais il faut faire attention parce que vous avez des disciplines Donc, vous pouvez être catalogué dans une discipline parce que ce sont vos travaux principaux et vous pouvez traiter d'autres sujets par hasard de manière plus marginale ou plus importante. Donc, il n'y a pas que 4% des économistes qui traitent des questions environnementales. Ils sont beaucoup plus nombreux. Il y en a 4% qui sont spécialisés en termes de recherche principale sur ce thème. Après, sur les revues généralistes, effectivement, c'est ce qu'on appelle le top 5. Donc, c'est toute américaine, justement, ne vise pas des questions, ce qu'on appelle spécialisées, spécifiques. Et c'est vrai que pendant longtemps, l'environnement était considéré comme un champ spécialisé, mais pas généraliste. Et donc, il publiait pas ces articles-là. Et ça commence à sortir. Et la plupart des articles des économistes, justement, étaient à finalité empirique, spécialisée, et donc avaient peu de chances de sortir dans ces revues. C'est pas une question de thématique en tant que telle.
Comment est-ce qu'on explique néanmoins Lionel Ragot, j'allais dire, que l'environnement soit à la marge dans le champ de recherche économique?
Il n'est pas.
Bah, tout de même, si on regarde les chiffres que l'on vient de citer, oui. Même dans vos explications, vous dites bien qu'il n'y a pas au cœur de la recherche économique.
Il n'est pas. Il y a eu une montée en puissance très importante depuis plus de 20-25 ans.
On va en parler.
Ouais, il y a une montée en puissance. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le chiffre, mais on a commencé à regarder avec la présidente du CNU, le Conseil national des universités en économie, et il nous semble que le champ disciplinaire dans lequel il y a le plus de thèses qui sortent, c'est justement en économie de l'environnement. Donc il y a eu une explosion depuis une dizaine d'années de travaux de recherche par les doctorants sur ces questions-là. Et pour y arriver, eh ben, il faut qu'il y ait des encadrants. Donc ça veut dire que depuis un certain nombre d'années, depuis 20-25 ans, il y a des permanents qui travaillent sur ces thématiques-là et qui de plus en plus mettent des doctorants sur ces questions.
Timothée Paré, comment vous-même vous expliquez, j'allais dire, certains disent à la marge, d'autres disent en tout cas que ces recherches ont été oblitérées un instant, mais que c'est en train de changer. Comment est-ce que vous expliquez ce retard relatif? Est-ce que c'est d'abord un rapport au dogme dit de la croissance?
Alors avant ça, il faut juste noter, l'une des sources premières, c'est l'éducation en sciences économiques, qui, elle, est complètement... où l'environnement est absent. Là, je vais citer un autre titre d'une étude de 2024 qui a analysé 57 manuels d'économie en anglais à destination des étudiants de licence d'économie. Donc là, c'est vraiment les manuels qu'on utilise dans tout le monde anglophone et même des versions traduites, donc même en France. Dans un manuel d'économie, on trouve en moyenne 2,6 pages sur le changement climatique, soit seulement 0,5% du contenu. Et la plupart du temps, c'est à la fin, entre le glossaire, donc là vraiment, là où les enseignants sont le moins à même de l'utiliser. En France, une autre étude, cette fois de l'AFESP, donc de l'Association française d'économie politique, sur les 53 universités publiques françaises qui proposent une licence d'économie, seulement 0,8% des ECTS portent sur le thème de l'environnement. Et la moitié des universités ne proposent aucun contenu sur le sujet. Donc, il faut pas s'étonner qu'on a très peu d'étudiantes et d'étudiants qui vont décider de faire une thèse sur des thématiques liées à l'environnement, encore moins qui vont réussir à avoir une position après, et donc encore moins qui vont être capables d'enseigner, d'encadrer, de publier et d'en parler.
Lionel Ragot, vous avez levé le doigt.
Oui, non, sur deux petites réactions. La première, il n'y a pas systématiquement un cours d'économie de l'environnement, même s'il y en a de plus en plus dans les UFR. Par contre, la question environnementale, elle va être prise en compte dans beaucoup de cours. Un cours d'économie publique, ça s'appelle l'économie publique. Donc si vous faites la recension, vous n'allez pas mettre ça comme économie d'environnement. Pourtant, les trois quarts du contenu vont porter sur les problèmes d'externalité liés à la pollution, comment évaluer les biens non marchands, en particulier les biens environnementaux et autres. Donc on le traite. Et puis surtout, c'est le gouvernement a imposé que dans toutes les universités françaises, il y ait un cours transversal pour tous les étudiants de première année, quelle que soit leur discipline, pour les sensibiliser justement au problème de la transition environnementale et la transition énergétique. Donc depuis 2 ans, tous les étudiants de première année ont systématiquement un cours qu'ils doivent suivre, qui est crédité de CTS, sur la question de la transition environnementale.
Je reviens, Timothée Paré, à ma question précédente. Cette notion de croissance centrale, fondamentale en économie, bien sûr, comment elle a permis d'apprécier, d'approcher justement cette question environnementale, selon vous?
Alors c'est une question qui est compliquée, parce qu'avant même de parler de croissance, il faut comprendre comment les économistes comprennent la production, notamment avec des facteurs de production qui sont au cœur des modèles économiques. Une fonction de production, c'est ce qui explique comment est-ce qu'on produit, donc on parle de facteurs de production. Et là, on se rend compte que la manière dont on va intégrer l'énergie, les matériaux et les services écosystémiques, si on leur donne une grande importance dans la fonction de production, eh ben ça peut mener à un moment où bien sûr la croissance va être contrainte par une situation environnementale. Alors que si on les met à la marge, on leur donne un rôle périphérique dans cette fonction de production, eh ben ça ouvre la porte pour une hypothèse de croissance infinie qu'on retrouve d'ailleurs dans les modèles de Nordhaus. Donc c'est ça qui fait la différence, ce positionnement sur la croissance économique et la manière dont on va venir designer une fonction de production entre l'approche néoclassique, donc l'économie de l'environnement, l'application des théories néoclassiques à l'étude de l'environnement, et l'économie écologique, qui est une école de pensée dite hétérodoxe, qui s'est développée dans les années 80, qui a essayé justement de repenser cette relation avec des fonctions de production plus contraintes par les phénomènes environnementaux.
Quand on fait un peu d'histoire, Lionel Ragot, d'histoire de la pensée économique notamment, on réalise, on se rend compte que la nature, elle est présente dans les approches, dans les modèles, dans les pensées de l'économie. Même les physiocrates, hein, les prédécesseurs des économistes pensaient déjà le rapport à la nature, le rapport à la terre, le rapport à l'agriculture.
Tout à fait. Et si je reprends le terme qu'a utilisé Timothée Parik, hein, la fonction de production. Spécifiquement, si vous prenez, alors je vais pas remonter au physiocrate, je vais remonter au classique, hein, donc quand même début du 19e siècle, donc Smith, Ricardo, Malthus,
hein, et Jean-Baptiste Say en France.
Voilà, les grands classiques, ils mettaient la terre, hein, le principal facteur de production à l'époque, on est dans des économies agricoles, donc c'est la terre. Et ils ont conscience qu'on a sur les terrains agricoles des rendements décroissants. Les agriculteurs sont pas stupides. Ils commencent par produire sur les terres les plus productives. Et puis, au fur et à mesure qu'ils doivent augmenter leur production, eh ben, ils vont défricher des terres qui sont de moins en moins productives. Et donc, les rendements sont décroissants. C'est ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Et donc, ils avaient tout à fait conscience que, ben, ça passe par une augmentation des prix et que la croissance n'était pas perpétuelle, pas possible. On allait buter sur la disponibilité des terres très productives. Et pour eux, il pouvait pas y avoir de croissance perpétuelle. On allait buter sur un état stationnaire. Alors, il le regrettait.
Donc, le mythe, pardonnez-moi, je vous coupe, le mythe de la croissance infinie,
le
dogme selon lequel les économistes...
Je vais vous dire quand elle est arrivée.
Je vous écoute, pardon.
Donc, pour les classiques, Ricardo, Smith, Malthus, c'était leur crainte, parce que ça allait poser des problèmes de redistribution et tout. Donc, ils ont fait de l'économie politique par rapport à ça. Et, vous avez un économiste aussi classique, qui s'appelle John Stuart Mill, qui le premier a dit, mais finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que on a tendance à dégrader l'environnement au fur et à mesure qu'on continue à se développer, et peut-être que s'arrêter, c'est donc vous voyez l'idée déjà d'une c'est pas de la décroissance puisque c'est un
état
de croissance. Vous l'avez déjà dès 1846 avec John Stuart Mill. Donc c'est quelque chose qu'on a de récurrent. C'est pas ce qui s'est passé. Effectivement, on est plutôt sur, depuis maintenant 200 ans, on est sur une croissance perpétuelle. Alors, il y a des fluctuations, il y a des cycles, mais on est sur le long terme, sur une croissance perpétuelle. Qu'est-ce qu'avaient pas anticipé les classiques? C'est le progrès technique, ça a été la révolution industrielle. Et donc, l'apparition d'autres facteurs de production, en particulier le capital physique, qui lui est soumis à un progrès qu'on n'avait pas sur les terres, qu'on a eu après, parce qu'on n'aurait pas pu avoir de révolution industrielle si on n'avait pas eu de révolution agraire. Hein, mais je vais pas revenir sur ce débat-là. Et donc, et puis là, vous avez un autre économiste important qui s'appelle Jevons, fin du 19e, dans les années 1860, qui lui met à nouveau le problème en perspective, en disant, mais la révolution industrielle, elle est basée sur le charbon. Hein, chaque révolution industrielle est basée sur une énergie. La première, c'est le charbon. Et il dit, mais le charbon, il est en quantité limitée. Et donc, il prévoyait l'effondrement de l'économie britannique le jour où on aurait épuisé les mines de charbon les plus faciles à extraire. Hein. Et donc, à nouveau, vous voyez, là, c'était plus, on butait plus sur la limite des terres, on allait buter sur la limite du charbon. Et il anticipait deux choses. Il a dit, bon, il peut y avoir du progrès technique sur les processus de production qui feront qu'on aura besoin de moins en moins de charbon. Mmh. Mais il a dit, ah oui, mais il y aura ce qu'on appelle l'effet rebond. Effectivement, la machine à vapeur, elles ont été de plus en plus productives, elles demandaient de moins en moins de charbon, mais on en produisait de plus en plus. Donc au total, ça augmentait quand même la quantité.
On va s'arrêter un instant quand même au 19e siècle. Je voudrais faire réagir Timothée Parik. Oui. On abordera ensemble le 20e. Timothée Parik, quand on entend justement ce que vient d'expliquer Lionel Ragot, on comprend bien que les économistes, dans leur histoire, ont abordé ces questions de limite. Alors je ne parle pas de limite planétaire, évidemment, mais la limite des ressources, la limite de ce que la Terre peut produire même.
Oui, on comprend bien que quand on fait un peu de l'économie, du sens commun, sans trop connaître la théorie et sans avoir fait de diplôme, on se dit bien, bon bah pour produire quelque chose, il va falloir que j'aille trouver des ressources dans la nature, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. C'est un peu la façon dont on vient penser l'économie dans son sens premier, l'organisation de la production très concrète. Et au 19e siècle, justement, lors de la mathématisation des sciences économiques, parce que bon, les classiques, c'est, ils écrivaient des essais avec des mots, des phrases, et c'est très proche de la philosophie. Quand l'économie a été formalisée, il a fallu traduire un petit peu ces théories en équations mathématiques, il a fallu grandement la simplifier. Donc par exemple, la fonction de production des classiques, c'est-à-dire que pour produire, il faut de la terre, donc de la nature, du travail et du capital, une fonction à trois critères. Ça, on ne pouvait pas mathématiquement la représenter, on a simplifié, on s'est dit, bon bah tiens, on va faire une fonction à deux variables, capital, travail. Et on va dire dans capital, il y a un capital il y a un capital humain, il y a un capital qui est naturel, il y a un capital qui est manufacturé. Et en faisant cette simplification, je pense qu'on a fait une grande erreur. C'est-à-dire que en la faisant, et c'est une erreur qu'on continue de faire aujourd'hui dans des modèles macroéconomiques, on fait l'hypothèse que dans cette catégorie de capitaux humains, sociaux, manufacturés, eh ben ils sont substituables entre eux. Le problème, c'est que, et l'économie écologique dans les années 80 a critiqué cette hypothèse de substitution en disant bah, cette substitution, elle a une limite. C'est-à-dire que c'est Herman Daly, l'économiste américain, qui disait voilà, même si on multiplie le nombre de fours pour faire des pizzas, bah, le jour où il n'y a plus de farine, et bah, on ne peut plus faire de pizza. Et donc là, dans les modèles macroéconomiques aujourd'hui où on a cette hypothèse de substitution, bien sûr, on peut se permettre de faire croître une économie même sans nature à partir du moment où on a réussi à transformer un capital naturel, peut-être en capital manufacturé. Donc on coupe des arbres pour faire des tables, ça change un petit peu de domaine comptable, mais ça continue d'être un facteur de production, alors que les écologistes, on va dire les scientifiques du monde naturel en général, nous disent « mais attention ». Non, il y a certaines ressources qui sont plus importantes que d'autres. Et je terminerai avec celle-là parce que c'était la théorie chère aux physiocrates. C'est la capacité d'une économie à faire pousser de la nourriture. Et c'est quelque chose que l'on oublie un petit peu. Et d'ailleurs, on reviendra à Nordhaus sans trop lui casser du sucre sur le dos. Mais Nordhaus disait souvent que l'agriculture, en fait, ça ne servait à rien. En gros, ça ne servait à rien. C'était un secteur qui était très affecté par l'écologie. Mais il disait, vu que c'est que 3% du PIB, même si c'est très affecté, ça aura un impact macroéconomique non significatif. Alors ça, c'est marrant de se dire, parce que quelqu'un, dans le sens commun, on se dirait, si on n'arrive plus à faire pousser de la nourriture, en fait, toute activité économique s'arrête. On ne peut même plus avoir un facteur travail et donc on ne peut plus rien produire. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte un petit peu de l'erreur qu'on a fait, de la simplification des modèles donc néoclassiques à l'époque, et on essaye de faire marche arrière pour avoir des fonctions de production un petit peu plus complexes.
Lionel Ragot, en somme, Timothée Parek nous dit deux choses. Il nous dit d'abord, au 19e siècle, et notamment dans la pensée classique, on a réduit le nombre de facteurs de production à deux, capital et travail, donc on a peut-être oublié ce que c'était aussi la nature en partie dans certains des modèles économiques. Et il dit une seconde chose, si tous les facteurs de production sont substituables, c'est-à-dire si on peut les remplacer les uns les autres, une fois qu'on a brûlé une forêt ou qu'on a coupé des arbres pour en faire des meubles, eh ben c'est plus compliqué de la faire renaître cette forêt. Donc là, à nouveau, la nature est mise de côté.
Alors, sur les classiques, le facteur principal, c'était pas le capital, c'était la terre. On est dans des économies agraires, on n'a pas encore la révolution industrielle, donc le capital il est très 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 limité. Donc les deux facteurs principaux, c'est le facteur terre et c'est le facteur travail. Et effectivement, sur le facteur terre, vous avez...
C'est moins vrai à la fin du 19e siècle.
Après, c'est moins vrai. Avec la révolution industrielle, le facteur principal, avec le travail toujours indispensable...
C'est le capital.
Ça va devenir le capital, qui va poser d'autres problèmes. Et effectivement, si vous voulez, une des lignes de fracture chez les économistes, sur les questions d'économie d'environnement, ça va justement être, et Timothée Parek a raison là-dessus, sur les croyances qu'on a dans certaines substitutions possibles entre différentes formes de capital.
Et donc
ça va faire une distinction entre ce qu'on va appeler la durabilité faible et la durabilité forte. Durabilité faible, on considère qu'effectivement, on va pouvoir substituer certains services fournis par la nature par des services fournis par du capital physique, d'accord ? Et auquel cas, on peut se permettre de voir certaines ressources diminuer parce qu'on peut leur substituer d'autres formes. Alors que pour les tenants de la durabilité forte, non, il n'y a aucune substitution possible. Et de toute façon, il y a une valeur intrinsèque à l'environnement. Donc on ne peut pas se permettre de voir ces actifs diminuer. Oui, c'est cette grande différence. Et il a tout à fait raison. Ce concept de substituabilité entre différentes formes de capital est un concept clé qui fait une ligne de fracture entre deux courants d'économie de l'environnement.
Alors, comme il a raison, on va l'interroger à nouveau. Je voudrais qu'on s'intéresse à une autre notion qui émerge un peu plus tard dans la pensée économique. Timothée Parik, celle d'externalité. Il y en a deux types, hein, les externalités positives et les externalités négatives. Pour ces dernières, c'est assez simple. Hein, lorsqu'on produit, il y a des effets négatifs qu'il s'agit de prendre en compte. Effets négatifs sur les individus, mais aussi sur les facteurs, différents facteurs de production. Timothée Parik, est-ce qu'on n'a pas là l'embryon, j'allais dire, d'une pensée pour mieux saisir l'impact du réchauffement climatique?
Oui, moi je dirais juste que l'ordre n'est pas le bon, dans le sens où on part de l'économie telle qu'on l'entend, l'économie monétaire mesurée par les outils de la comptabilité nationale, notamment le PIB, et on se dit, ah bah tiens, quand on produit, il se passe des trucs, par exemple des émissions de gaz à effet de serre, ou des impacts sur la biodiversité, et donc ça va quelque part à l'extérieur de l'économie, dans cette espèce de catégorie un petit peu périphérique, l'environnement. Et quand on fait ça, on met déjà un petit peu l'environnement de côté. On se dit, bon, c'est une externalité, et d'ailleurs, politiquement, les externalités sont traitées comme des externalités, c'est-à-dire comme des effets à corriger. Mmh. De la même manière, la façon dont on les mesure, c'est pour ça qu'on appelle ça des comptes satellites, même dans la comptabilité nationale, tous les indicateurs environnementaux, on voit, c'est des comptes satellites, donc qui viennent, j'imagine, tourner, graviter autour de l'économie monétaire qui serait, elle, la véritable économie. Moi, je propose un ordre différent, qui est un ordre, pour moi, qui fait sens, c'est-à-dire que l'économie, c'est une agrégation d'animaux intelligents, nous autres les humains, qui sont, comme tous les animaux, contraints par les lois de la biologie, et comme tous les objets, donc ça inclut aussi les animaux, qui sont contraints par les lois de la physique. Donc moi j'aime bien cette hiérarchie de se dire l'économie, c'est un sous-système social, elle est encastrée dans une société, cette société humaine elle-même encastrée dans un environnement contraint aux lois biophysiques. Et donc là, quand on voit ça, c'est plutôt l'économie qui est une internalité, d'une certaine manière, d'une économie plus vaste qui est celle de la nature. Alors là, vous allez me dire, est-ce que je dis quelque chose, un sens commun? Non, c'est très important parce que quand on vient modéliser l'économie, il faut pas représenter l'environnement comme un sous-système économique, mais plutôt le contraire, c'est-à-dire représenter l'économie comme un sous-système environnemental.
Lionel Ragot.
Oui, alors, bien qu'étant macroéconomiste, j'ai une vision un peu moins macroéconomique des externalités que celle que vient de développer Timothée, et beaucoup plus microéconomique. Et effectivement, vous avez raison, je pense que ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'économie de l'environnement, son acte de naissance, on peut le faire remonter à Pigou, qui est un économiste anglais et qui a mis en évidence ce concept d'externalité négative sur un cas très très concret. C'est le développement des chemins de fer au Royaume-Uni. Et un des effets négatifs, c'était pas aussi performant qu'aujourd'hui, les locomotives avaient tendance à faire des grosses étincelles quand elles roulaient sur les rails, et ces étincelles mettaient le feu
embrasaient les forêts.
Et alors pas les forêts, c'était principalement les cultures. Donc ça embrasait les petits fourrés que vous aviez à côté de la voie ferrée, mais qui lesquels donnaient sur les cultures de blé et autres, et ça embrasait les cultures. Donc ça posait des gros problèmes aux agriculteurs anglais. Et il s'est dit, comment je peux traiter ça? Et il a donné sens à ce qu'on appelle la taxation pigouvienne. Il a dit, faut que je fasse comprendre aux opérateurs de chemin de fer anglais que leur activité, elle a un coût social qu'eux ne supportent pas. Pour les agriculteurs qui voient leur récolte partir en fumée, et je vais leur envoyer un signal en leur mettant une taxe pour leur dire, attention, quand vous faites rouler vos trains avec les conditions actuelles, ça a ce coût-là pour les agriculteurs, et donc je vous le fais subir. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, attendez, au lieu de payer cette taxe, si on améliorait le roulement de nos locomotives, ils ont travaillé, et effectivement, très rapidement, ces incendies ont quasiment diminué. Ça, c'est ce qu'on appelle la taxe pigouvienne. Et ça a été le début de plein de travaux, justement, en économie d'environnement, parce que c'est des problèmes de pollution qui sont développés à partir de ce moment-là.
De plein de travaux, comme vous le dites, Lionel Ragot, et de traductions extrêmement concrètes, même en termes de politique publique. Aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on appelle en Europe le marché carbone, qui permet à des entreprises, à partir d'un prix dédié à la tonne de carbone, de vendre et de racheter du carbone selon qu'elle pollue plus ou moins. Lorsqu'on constate cela, Timothée Parik, est-ce que ce n'est pas une évidence selon laquelle la pensée économique a, depuis plusieurs décennies, avancé sur ces questions écologiques?
Encore heureux. Sinon, ça serait, si elle était complètement statique, ça serait problématique. Moi, je ferais quand même la critique qu'elle n'a pas avancé assez vite. Et d'ailleurs, quand je discute souvent avec des économistes, on tombe toujours sur le même outil, la taxe carbone ou son alternative, les marchés carbone. Ça, moi, c'est ce que j'appelle la monomanie du carbone. Vous avez sûrement entendu parler des limites planétaires, donc ce cadre avec 9 limites planétaires, donc qui vient caractériser l'état soutenable ou insoutenable de plusieurs systèmes comme les océans, la biodiversité, l'usage des sols, la couche d'ozone, notre rapport à l'eau. Et les économistes, quand ils ont intégré l'environnement, on a vu que c'était une minorité d'entre eux, en fait n'ont intégré qu'un seul aspect environnemental, c'est le changement climatique, et ils l'ont intégré essentiellement avec une solution unique, qui est celle de mettre un prix sur le carbone. Mmh. Alors, je dis pas que c'est pas quelque chose c'est quelque chose de néfaste, hein, dans le sens, oui, bien sûr, le renchérissement du carbone, eh ben ça, c'est l'un des outils pour faire une transition énergétique. Pour l'instant, ça n'a pas du tout marché, mais en tout cas, en théorie, c'est mieux que rien. Mais c'est considéré un petit peu comme une solution miracle à toutes les problématiques environnementales. Et c'est là où on voit vraiment que la plupart des économistes, et notamment les économistes de l'environnement, donc qui sont, à mon avis, contraints par le cadre néoclassique qui ne leur fait voir que l'économie monétaire et donc qui leur donne comme solution essentiellement des politiques par les prix, qui n'ont pas très bien fonctionné d'ailleurs. Hein. Le marché européen, bon, en ce moment, on est à quoi, 70 euros la tonne. On peut prendre un pays comme la Suède, hein, qui a une taxe carbone depuis 1991, qui est l'une des taxes carbone les plus élevées au monde. En ce moment, c'est 134 euros la tonne. Donc, c'est un petit peu la Ferrari des taxes carbone, hein, très bien designée, consensus institutionnel pour la mettre en place, avec des débats multi-acteurs. Enfin, c'était vraiment une taxe qui a été, à la différence de l'expérience française. Et même aujourd'hui, donc 30 ans après, cette taxe, elle ne couvre que 40% des émissions territoriales, pas des émissions de consommation, hein, et sachant que les émissions territoriales, c'est que 40% de l'empreinte carbone suédoise. Donc là, la taxe carbone, en fait, elle ne couvre qu'une infime partie des activités économiques suédoises, et donc c'est pas une surprise de voir que la Suède n'a pas réussi avoir une trajectoire d'atténuation du changement climatique compatible avec l'accord de Paris, et encore moins, bien sûr, d'entamer une transition qui le permettrait de revenir sous le seuil des limites planétaires sur les autres limites.
Il y a quand même une chose, Lionel Rago, que l'on reproche beaucoup aux économistes sur la question environnementale, c'est notamment de ne pas assez prendre en compte les effets néfastes de ce changement climatique sur l'économie et sur l'économie de long terme. On voit des chiffres extrêmement disparates, hein, sur ces retombées concrètes. Là aussi, comment est-ce qu'on l'explique ? Est-ce que c'est un retard ou est-ce que ce sont des divergences méthodologiques, des divergences d'appréciation ?
Non, alors, je ne sais pas qui dit qu'on ne travaille pas assez pour évaluer justement ces dommages présents et futurs.
Ah, j'ai pas dit que les dommages n'étaient pas assez évalués, j'ai dit que les résultats étaient extrêmement différents et que du coup on sous-estimait, on sous-estimait cet impact.
Ok, mais justement, une des avancées, hein, on a parlé de la taxe Pigou, une autre avancée des travaux des économistes d'environnement, ça a justement été sur l'évaluation. Parce que c'est toujours pareil, hein, si on veut mettre en place une politique, les coûts, on les connaît. Ça, c'est facile d'évaluer combien va coûter telle ou telle politique environnementale.
Mais il faut mesurer le résultat.
Oui, pour quel bénéfice ? Donc, c'est là où c'est très compliqué. Et beaucoup de travaux ont été réalisés par les économistes pour mettre en place des instruments d'évaluation. Alors, monétaire, effectivement, hein, des économistes, leur référent, hein, ça va être des euros. Hein, je vais comparer des coûts en euros avec des bénéfices en euros. Et donc, là, c'est pareil, ça fait plus de 30 ans que vous avez des centaines d'économistes qui travaillent sur les avantages et inconvénients de différents types, différentes méthodes d'évaluation des biens non marchands, hein, donc de biens environnementaux. Évaluation contingente, on pourra en reparler si vous voulez, prix hédonique, coût évité. Alors, suivant la méthode que vous utilisez, vous pouvez obtenir des résultats un peu différents.
Timothée Paré, en quelques mots, hein, parce que je voudrais que l'on avance, notamment sur la recherche contemporaine, vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté pour les économistes, là encore, à aborder le sujet de la biodiversité, qui est un peu différent de la question du climat. Là encore, comment est-ce que vous expliquez cet angle mort selon vous ? Timothée Parik. Alors, comme on aurait peut-être perdu la connexion, je reviendrai à cette question. Je voudrais vous faire entendre la voix d'un prix Nobel, le seul prix Nobel d'économie qui a été récompensé pour un sujet lié justement à des recherches liées à l'environnement. Il s'appelle William Nordhaus, c'est un chercheur américain.
The signal contribution of economics is to recognize La contribution majeure de l'économie est de reconnaître que le changement climatique est un effet secondaire néfaste et involontaire de la croissance économique, connu dans le jargon économique sous le nom d'effet externe ou d'externalité. La théorie économique suggère que le meilleur remède à ces externalités est une taxe sur la pollution, une taxe sur les émissions de carbone, ou ce qu'on appelle aujourd'hui une taxe carbone. Une taxe carbone augmente le prix des émissions de carbone afin de refléter les coûts sociaux. Elle fournit également de puissantes incitations à réduire les émissions et à développer de nouvelles technologies à faible émission de carbone. Ainsi, après plus d'un siècle de recherche dans différents domaines, la science est claire, l'économie est claire, et il appartient désormais à ceux qui nous représentent, nos dirigeants élus, d'agir de manière responsable pour mettre en œuvre des solutions durables et efficaces.
Qu'apporte-t-il, William Nordhaus, justement, du point de vue de la recherche économique en matière environnementale? C'est un prix Nobel qui lui a été remis en 2018.
Oui, effectivement. Alors, il a développé le modèle DICE. C'est un modèle qui a été très utilisé par la suite.
Qu'est-ce que
c'est? Alors, c'est un modèle qui va, comment dire, qui va coupler à la fois les contraintes environnementales, principalement réchauffement climatique, changement climatique. Là, Timothée Paric a raison. On pourra peut-être revenir justement sur les problèmes que pose la biodiversité pour les économistes, avec un modèle économique. Donc, on les met ensemble et on regarde justement comment les évolutions économiques vont impacter l'environnement et réciproquement comment les contraintes qu'on va mettre pour limiter la dégradation environnementale va affecter l'économie. Donc c'est important. Si je peux me permettre, vous avez quand même d'autres prix Nobel en économie qui ont eu, alors c'était pas leur thème principal, mais qui ont travaillé sur des questions liées à l'environnement. Je pense à Robert Solow, alors qui est plus connu pour il a eu le prix Nobel pour sa théorie de la croissance, justement, mais il a fait des travaux assez importants après le Club de Rome, dans les années 70, le halte à la croissance, où le Club de Rome disait, mais on va buter sur les réserves de pétrole, et c'était comme Jevons sur le charbon, et les économies vont s'effondrer. Et Solow, dans ses modèles de croissance, justement, a introduit cette contrainte pour voir si, effectivement, c'était un avenir indépassable ou pas. Et je pense aussi à Arrow, Kenneth Arrow, qui a reçu le prix Nobel, pas pour ses travaux sur l'environnement, mais qui avait, par exemple, quand je parlais des méthodes d'évaluation, Arrow et Solow, d'ailleurs, tous les deux, avaient été mandatés par le ministère du Commerce américain après la marée noire de l'Exxon Valdez en Alaska, pour justement faire un cahier des charges qui permettait d'évaluer le mieux possible les dommages environnementaux subis par l'Alaska suite à cette marée noire.
On va tenter de rétablir la connexion avec Timothée Paric, mais avant cela, Lionel Ragot, un mot tout de même sur la recherche contemporaine. Il faut parler justement de ces chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur l'écologie. Comment se saisissent-ils de cet objet éminemment large? On imagine que les champs de recherche sont multiples et surtout que les sous-disciplines de l'économie s'en saisissent de manière extrêmement différente.
Pratiquement toutes maintenant. Hein, pratiquement toutes. C'est un thème d'application des recherches en économie. Quand vous faites de l'économie comportementale, souvent vous allez aborder des questions environnementales. L'économie de la santé, vous allez aborder des questions environnementales. Alors, je voudrais juste, initialement, si je prends le cas de la France, initialement, les économistes sont rentrés sur les questions environnementales au tout début, principalement à travers justement la question de la croissance, pérennité de la croissance et préservation de l'environnement. Donc des approches très théoriques, très macroéconomiques. Et aujourd'hui, mais ça c'est un glissement de toute la science économique, on est sur des travaux beaucoup plus empiriques, donc économie expérimentale, économie comportementale et autres, où vous avez mais des centaines et des centaines de thèses qui sont faites sur des questions liées à l'environnement, la santé, sur des choses très 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 spécifiques, très très variées.
Timothée Paric, vous êtes désormais avec nous par téléphone. Un mot justement sur la difficulté peut-être des économistes de la discipline économique à aborder le sujet de la biodiversité différente de celle du climat. Pourquoi est-ce si compliqué dans le fond de comprendre l'impact de la production, de la croissance sur la biodiversité?
Le premier critère, c'est que c'est très difficile de mettre un prix sur quelque chose qu'on a du mal déjà à mesurer du terme biologique. Si on va voir un biologiste et on lui demande quelles sont les espèces qui habitent dans cet écosystème, combien est-ce qu'il y en a et quelles sont leurs importances relatives dans ce qu'on appelle les services écosystémiques qui pourraient contribuer en fait à faire fonctionner l'économie. Bah, déjà, même avant de mettre un prix là-dessus, cette réponse, elle est très difficile. Il faut aller compter les espèces, il faut les connaître, il faut les avoir identifiées, il faut avoir une compréhension complexe de leur importance relative dans le fonctionnement des écosystèmes. Et ensuite, quand bien même on arriverait à faire cela, et je pense que c'est quelque chose de très difficile à faire, ensuite, il faudrait se poser la question, OK, quelle est leur importance relative en termes de prix dans le mécanisme économique pour arriver à déterminer en fait le dommage à l'économie si on venait à perdre cette biodiversité. Et malheureusement, on n'en est pas là. Enfin, les modèles qu'on a en économie, on peut voir la meilleure chose qu'on a réussi à faire, c'est d'intégrer un petit peu donc l'aspect changement climatique. Et même là, on a des approches, et je ne sais pas si on aura l'occasion de parler du modèle DICE de William Nordhaus, des approches très linéaires où il n'y a pas de potentiel catastrophe. C'est un petit peu, on a deux sons de cloche, c'est-à-dire que quand on entend les climatologues, on comprend bien, c'est ce qu'ils appellent des effets de seuil. Mmh. Donc ça se réchauffe un petit peu, un petit peu, un petit peu, et au bout d'un moment, ah bah tiens, on a un réchauffement tel qu'on a des effets, des cercles vicieux qui se mettent en place. Pour l'aspect de la biodiversité, ça peut être on surpêche un petit peu, un petit peu, un petit peu, on pousse la corde, et au bout d'un moment, ah bah tiens, on a trop surpêché, la pêcherie s'effondre, et là on se retrouve avec un océan qui est mort. C'est ça un effet de seuil. Et ça, pour l'instant, dans les modèles, on les a pas, et ça amène Nordhaus à cette conclusion tout à fait ridicule quand il utilisait le modèle DICE pour montrer qu'un réchauffement de 6 degrés du climat à l'horizon 2100 n'engendrerait qu'un dommage de l'équivalent de 10% du PIB mondial. Alors qu'on dit ça à n'importe quel climatologue, 6 degrés, je pense que ça fait passer le film Mad Max pour la petite maison dans la prairie.
Comment est-ce qu'on explique, Lionel Rago, qu'un prix Nobel d'économie, William Nordhaus, puisse produire de tels résultats? C'est quand même stupéfiant.
Alors, effectivement, c'est parce que c'est, Timothy Pack l'a dit, c'est parce que c'est, on extrapole par linéarité ce qu'on constate. Et c'est là où, effectivement, il faut que les économistes restent modestes, au sens où on maîtrise bien ce qui se passe dans le monde économique, on maîtrise beaucoup moins bien ce qui se passe dans le monde du climat. Donc, il y a des effets de seuil, il y a des tipping points, comme on appelle ça, où effectivement, il y a des basculements que même les climatologues eux-mêmes ne maîtrisent pas forcément. Ils disent arriver à ce moment-là, il y a une grande phase d'incertitude, on ne sait pas ce qui peut se passer. Faut être très prudent. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Timothée Parik sur ça n'a pas de sens de dire plus 6 degrés de température, ça sera 10% de PIB en moins.
D'un mot, et j'ai l'impression que chaque débat sur les sciences sociales se conclut de cette façon-là. Vous convergez d'ailleurs à ce propos. C'est un appel que vous lancez à l'interdisciplinarité. Il faut mêler la science économique aux autres approches, aux sciences humaines, aux autres sciences de la nature.
Ah bah alors, beaucoup de travaux sont faits en interdisciplinaire sur l'économie de l'environnement, et de plus en plus d'ailleurs. Et comme je vous ai dit, comme il y a un basculement vers l'économie très empirique, très appliquée, ça nécessite justement des données et autres qui viennent d'autres disciplines. Donc il y a de plus en plus de travaux qui se font en interdisciplinaire sur l'économie de l'environnement.
Merci beaucoup, en tous les cas, à tous les deux de ce débat. Timothée Parik, je rappelle que vous êtes chercheur en économie écologique à l'Université de Lausanne. Lionel Rago, professeur d'économie à l'Université Paris-Nanterre et conseiller scientifique au CEPI. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Mathias Mégy, Antoine Héral, Stéphanie Villeneuve et Diane de Vancet. À suivre, après le journal, Lumière sur une région, le Donbass. Pour tenter de comprendre ce que c'est que de vivre sous domination russe, on en parlera avec la chercheuse Alexandra Goujon. Il est 18h58.